Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
La famille, première école de la mission. Alors, pour répondre à cette question, nous accueillons ce matin trois intervenants. Le père Michel Martin Prével, qui est prêtre depuis 12 ans et qui est à la communauté des Béatitudes depuis 40 ans. Il est marié, il a été marié pendant 32 ans et il a trois enfants et sept petits-enfants et il est à Blagnac. Éric et Noël Jamais, à ma gauche, mariés depuis 34 ans, ils ont sept enfants entre 33 et 19 ans, deux sont mariés et ils ont un petit-fils. Ils habitent Albi et ils sont membres de Priscille et Aquila et Vivre et Aimer. Et puis Marie Rodier, étudiante en licence d'anglais et professeure des écoles à mi-temps. Elle habite à la Frate de la Cathédrale à Toulouse. Comment la mission naît et grandit au sein de la famille? Comment cette mission se diffuse en dehors de la famille? Voilà les deux angles que nous avons choisis pour cette table ronde. Père Michel Martin Prével, est-ce que vous êtes sûr que la mission est incontournable?
Donc le monde a soif, ça c'est une évidence. Malgré effectivement beaucoup d'indifférence, de plus en plus, il y a, je crois, de la curiosité. Parce que ce monde ne sait plus où il va. Et là, on cherche de la lumière. Et les chrétiens sont peut-être les derniers à pouvoir dire quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi cette curiosité, il faut la saisir. Je pense notamment à des musulmans qui sont actuellement très curieux de connaître le Christ. Donc on n'est pas là pour attendre que ça se passe. C'est à nous de nous y mettre, puisque vous savez qu'on n'est plus grosso modo que 1% de catholiques en France. Voilà.
Donc la mission, c'est bon pour les autres. Est-ce que c'est aussi bon pour soi, Noël, Jamais?
Ça, c'est certain. C'est toujours une joie, en fait, de partager sa foi. Et au fur et à mesure qu'on la partage, elle grandit. C'est mystérieux, mais c'est comme ça.
La mission, c'est bien beau, mais elle ne semble pas forcément à la portée de tous. Nous avons peur ou nous ne savons pas comment nous y prendre. Marie Rodier, est-ce que vous vous en sentez capable?
Bonne question. Au début, non. Et puis, en fait, on a une première expérience qui marche bien et en fait, on se dit que c'est faisable. Moi, il y a une parole qui m'a beaucoup marquée, qui m'a aidée dans mon parcours à devenir cheftaine, notamment. C'est Dieu n'appelle pas des gens capables, il rend capables ceux qui l'appellent. Et c'est très, très vrai.
Éric Jamais, est-ce que la mission vous fait peur?
Moi, ça me fait peur. Oui, notamment lorsque je me sens en mission dans mon travail. Et ce qui me fait le plus peur, c'est de faire un contre-témoignage. En étant responsable d'une équipe, responsable d'un établissement, ce qui me fait peur, c'est de prendre de mauvaises décisions. J'ai tendance à d'abord faire une annonce implicite à travers mon comportement pour qu'au fil des mois ou des années, je puisse me révéler, mais en douceur.
Père Michel Martin Prével, que dites-vous à ceux qui n'osent pas se lancer dans la mission parce qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils n'ont pas forcément le temps?
Alors moi, je crois qu'il faut réentendre cette parole du Christ. C'est moi qui vous ai choisi. Et donc, ce n'est pas une question de capacité, comme tu l'as dit, c'est certainement un manque de foi. Voilà pour moi le gros obstacle, c'est que tout simplement, nous manquons de foi. Alors, le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, ça peut arriver, ce n'est pas non plus l'athéisme, ce n'est pas tout ça. Le véritable contrepoison pour la foi, c'est la peur. Et en ce moment, elle est, vous savez, assez forte. Voilà pourquoi on ne s'en sortira pas sans faire des actes de foi, mais je vous assure que ça marche. Voilà. En tout cas, pour ce qui est du mariage et de la famille, parce que c'est notre thème ici, c'est sûr que, vous savez, la fidélité, il faut y croire. Et ça, c'est un combat aujourd'hui pour nous. Et la fidélité, c'est pas autre chose qu'un acte de foi. Je pense à ces divorcés, vous savez, qui font ce choix, ça existe, ça s'appelle la communauté Notre-Dame de l'Alliance, qui font le choix, alors que l'autre est parti, de rester fidèle. Alors, ils sont un témoignage de l'indissolubilité du mariage, c'est incroyable. Un témoignage pour le monde, pour l'Église, mais aussi pour leurs enfants. Et il y a toutes ces difficultés aussi que traversent des couples et des familles. Eh bien, ça n'empêche pas d'avoir la foi. Voilà. Parce parce que le Seigneur sait notre faiblesse, mais il nous donne sa grâce. Voilà pourquoi il n'y a pas de véritable frein à la mission, sinon le manque de foi. Voilà.
Bon, la messe est dite, hein. Vous savez ce qui nous attend. Alors, on n'a plus vraiment d'excuses, mais alors comment on va faire naître cet engouement pour la mission dans notre famille? La mission, elle part du couple et elle se transmet d'abord aux enfants. Comment on s'y prend, Eric et Noël Jamais, pour devenir un couple missionnaire?
Alors d'abord, un couple missionnaire dans notre famille, hein, c'est ça. On s'y prend avec ce que l'on est d'abord. Je pense que la première mission qu'on a avec nos enfants, c'est de leur témoigner en quoi le Christ nous a sauvés. Et en tout cas, nous, si on a la foi, on a une foi qui n'est pas une foi de tradition, parce que nos familles n'étaient pas porteuses. Nos familles étaient plutôt anticléricales. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a retournés. Et c'est ce premier témoignage qu'on peut donner. En quoi? À quel moment? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie? Et ça, nos enfants l'entendent. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour les faire grandir et leur permettre, eux aussi, de faire cette rencontre. Nous, on n'était pas capable de faire des grands temps de prière de famille parce qu'à cet enfant, c'était le bazar complet. Donc, on ne savait pas faire. Donc, ce qu'on faisait, c'était prendre chacun le soir, chacun au moment du sommeil, avant de s'endormir, prendre un temps de prière personnel, en finissant avec une petite croix sur le front. Et encore à 23 ans, nos filles nous le redisent encore aujourd'hui, combien ça les a marqués.
Donc, en fait, Eric, vous voulez dire qu'en fait, il n'y a pas de famille parfaite et que c'est pas parce qu'on n'a pas reçu dans notre enfance qu'on ne peut pas appeler à la mission nos propres enfants et être missionnaire vis-à-vis d'eux. Par quoi on commence, en fait, Père Michel?
Vous avez remarqué qu'un feu, ça réchauffe. C'est ça qui fait du bien dans une famille. Donc, c'est vrai que la première mission, c'est d'abord d'évangéliser son propre couple. C'est-à-dire que le feu marche bien. Et pour ça, il faut mettre des bûches dans le feu. Parce qu'on croit que le feu, ça marche tout seul. Vous savez, les gens se marient, pensent que ça va aller tout seul. Puis 15 ans, 20 ans après, on se dit, mais c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ils ont oublié de mettre du bois dans le feu. Alors le bois, je vois trois bûches. Il paraît qu'un feu, ça se fait bien avec trois bûches. Donc, les trois bûches, c'est les trois P. C'est parler, pardonner et prier. Et quand on fait ça très régulièrement, qu'on réalimente le feu avec ce bois-là, alors bien sûr que le couple, je vous assure, il grandit. Il y a de l'intelligence qui se met dans cet amour-là, parce que ce n'est pas que des sentiments, il y a de l'effort. Et c'est comme ça qu'un couple devient missionnaire d'abord pour lui-même, parce que ce feu commence à se réveiller. Et alors ça commence tout de suite dans la famille avec les enfants. Les enfants, ils n'ont pas besoin de discours, ils ont besoin de l'exemple de leurs parents. Première chose importante. Et puis il y a une autre bûche à laquelle il faut penser régulièrement. Alors ça commence pas par un P, ça commence par un T. C'est la tendresse. Moi je crois beaucoup que ce monde quitte la tendresse. Et alors les couples, eh bien allez-y avec la tendresse. Vous pouvez tout faire avec la tendresse, vous avez droit à tout ça. Parce que dans le couple, il y a cette force extraordinaire que le corps doit participer à l'unité du couple. Et c'est pas que les ébats sexuels, c'est d'abord la tendresse, ça c'est tous les jours, c'est le sourire, c'est une caresse, c'est prendre l'autre dans les bras. Et ça, les enfants, ils ont besoin de voir ça. Voilà comment ça marche, l'évangélisation, par déjà à l'intérieur de la famille.
Et si l'un des deux conjoints ne croit pas, comment on peut être missionnaire?
Ah bon, on peut toujours être missionnaire tout seul. Alors, dès l'instant où on est baptisé, on est missionnaire. On n'a pas besoin d'être chevronné. Dès l'instant où on a reçu la grâce du baptême, on a la présence du Seigneur en nous et on peut la diffuser autour de nous. Alors, on peut toujours aussi garder l'espérance. C'est pas parce que son mari ou son épouse n'a pas la foi maintenant qu'elle ne l'aura jamais. Rien n'est impossible à Dieu.
Racontez-nous, Marie et Noël, comment un engagement des parents peut rejaillir sur l'engagement des enfants. Marie, pour commencer.
L'engagement des parents, moi, mon papa a beaucoup organisé de pèlerinages. Notamment, on a fait un pèlerinage en famille en Terre Sainte. On a eu cette chance, on l'a fait deux fois. Et ça a changé complètement, je trouve, la manière dont on a pu prier en famille, la manière dont on a abordé aussi le sujet de la foi. Ça a libéré des paroles et on en est tous revenus transformée. Et aujourd'hui, ça se sent encore. Moi, j'y suis retournée en Terre Sainte plusieurs fois toute seule parce que justement, ça m'avait marquée.
Noël, vous êtes animatrice d'aumônerie depuis quelques années déjà. Vous levez les yeux au ciel, ça fait beaucoup d'années. Comment vous avez transmis ce goût de la mission, justement, à travers cet engagement, à travers votre travail?
Alors comment,
vis-à-vis de vos
enfants? Je ne me suis pas creusé la tête en me disant comment je vais faire. En fait, ça vient tout seul. Et on disait tout à l'heure que finalement, les enfants étaient très imprégnés par notre façon d'être. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Nos enfants ont vu ma joie à chaque fois d'animer un groupe de aumônerie. Et un jour, mon fils en terminale m'a dit t'as pas un petit groupe de sixième là dont je pourrais m'occuper? Et c'était une belle progression pour lui pendant un an, d'essayer de faire grandir aussi la foi chez des jeunes, chez des enfants. Et de fait, il avait une puissance parce qu'il avait 17 ans et que pour un enfant de 12 ans, voire un grand, qui se tourne, qui se met à genoux devant Jésus et qui les aide à prier, il a porté beaucoup de fruits.
Donc on voit bien dans vos deux engagements, le pèlerinage en Terre Sainte avec vos parents, Marie, et puis vous qui y allez après en Terre Sainte, et puis Noël, animatrice d'aumônerie, puis qui finalement passe le relais à son fils. Une autre façon de donner l'exemple, c'est la prière en famille, évidemment, incontournable. Père Michel, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment ça se passait quand vous étiez jeune?
J'avais un enfant qui avait un garçon qui avait 12 ans, et à 12 ans, vous savez, c'est pas facile. Et puis là, vous savez bien que la prière en famille, c'est quoi un peu la galère. Et donc, celui qui était à 12 ans, à un moment donné, il avait marre d'aller prier avec les autres, tout ça. On avait un tout petit. Et donc, il a demandé de ne plus faire la prière. J'étais évidemment un peu très très gêné. Je lui ai dit, écoute, tu vas dans ta chambre et tu laisses ta porte ouverte. Voilà, c'était pas loin. Et donc, nous, on a continué à prier avec les deux autres. Et pendant un certain nombre de soirs, il est resté dans sa chambre, la porte ouverte. Mais je sentais bien qu'il était assis sur son lit et qu'il écoutait. Ah, et bien sûr, au bout d'un certain temps, il est arrivé discrètement, il s'est remis au fond de la pièce. Voilà. Et donc, il a réintégré la prière en famille. Voilà. Et puis, une autre fois, c'était un peu le bazar, c'était pas très facile, il y avait une ambiance qui était un peu difficile, ça. Eh bien, on s'est dit, mais pourquoi ça va pas aussi bien? On s'est rendu compte que nous-mêmes n'étions pas assez dans la prière. Alors on a dit, tant pis, on laisse les enfants, ils se débrouillent. Nous, on va aller prier tous les deux. On s'est mis devant notre icône et tout d'un coup, comme ça, les minutes s'écoulaient, les uns après les autres, ils sont venus se joindre à nous. Et j'ai compris que la prière en famille, si les parents ne sont pas eux-mêmes dans la prière, on essaye de faire prier les enfants, mais c'est pas la famille qui prie. Donc c'est très important que nous soyons d'abord dans la prière. Ça, c'est de l'évangélisation aussi, hein.
Marie, vous avez un exemple aussi à nous donner de prière en famille?
Moi, mon papa est diacre. Et donc tous les soirs, avec ma mère, ils font les vêpres. Et quand ils commencent sans nous, nous arrivons tous les cinq, les uns après les autres, pour se joindre à eux. Et c'est un très beau moment à partager entre nous. Et un autre exemple que j'ai, c'est que donc dans ma famille, on a toujours fait les bénédicités à table. Et maintenant, quand nous allons manger chez nos grands-parents nous demandent à nous, leurs petits-enfants, de bénir la table avec eux. Et du coup, nous, on chante tous les cinq quand on va manger que les enfants chez les grands-parents. Et les grands-parents sont là, ils nous demandent de faire le bénédicité. Et c'est un très beau témoignage pour voir que ce qu'on reçoit de nos parents rejaillit ensuite sur le reste de la famille.
Un bel exemple d'être missionnaire à travers ses enfants. Voilà. Père Michel, est-ce que vous avez une autre expérience à partager sur cette mission envers ses enfants?
Alors, c'est dans ma propre famille. Nous étions 9 enfants. J'étais un adolescent. Oui, c'est moi. Et alors, je me rappelle, ça m'a beaucoup marqué qu'au moment de Noël, j'habitais à Toulouse d'ailleurs à cette époque-là. Il y avait beaucoup d'étudiants étrangers à Toulouse. Et dans ma famille, mes parents tenaient beaucoup à inviter des étudiants étrangers pour les fêtes de Noël. Donc pour nous, c'était évident qu'à Noël, on avait cette ouverture qui m'a beaucoup marqué. Voilà.
Donc on a vu que c'était important de donner l'exemple, en fait, hein, pour donner cet amour de la mission à ses enfants. Mais finalement, est-ce que l'exemple, ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas, de temps en temps, dire les choses, Père Michel.
Oui, alors si l'exemple est capital, je crois qu'il y a des moments, de fait, où on nous mettra au pied du mur. On a tous connu ça. Et là, pour nos enfants, c'est pareil. Et je pense qu'il faut être capable, et on a le droit et le devoir, de dire ses propres convictions. Même à des enfants grands, quelquefois, on a peur de leur dire ce qu'on pense, parce que de fait, ils ne sont pas du tout, quelquefois, comme nous, surtout en grandissant. Et je pense qu'on a le devoir de leur dire ce que l'on pense des choses. C'est le coup de la petite Bernadette, hein, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Et c'est souvent parce qu'on ne dit pas que quelque chose ne peut pas démarrer, tout simplement. Après, on n'est pas chargé de laver leur cerveau. Peut-être qu'il vaut mieux leur laver les pieds, comme j'ai entendu hier.
Et sans forcément se dire qu'ils vont suivre exactement le même chemin et avoir les mêmes convictions que les parents. Alors, il y a évidemment des difficultés hein, quand on veut vivre cette mission au sein de sa famille. Difficulté à embarquer toute sa famille, la pudeur, les enfants, on le disait à l'instant, qui n'adhèrent pas. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, je vous rassure, on en a trouvé. Alors Marie, vous vouliez nous parler peut-être d'une première solution apportée à la pudeur, voilà, quand les parents n'osent pas parler de la foi.
Donc nous, moi j'ai eu, quand j'étais assez jeune, enfin adolescente, j'avais du mal à parler de ça avec mes parents, qui pourtant étaient déjà en discernement pour le diaconat. Et après un certain temps, quand je suis revenue d'expérience à l'étranger, notamment que j'avais grandi à 19-20 ans, j'ai commencé à pouvoir en parler avec mes parents, avec ma mère surtout. Et en fait, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que nos parents étaient là, présents pour nous, à l'écoute, de manière bienveillante. Et même si nous, on n'allait pas forcément les voir, on le savait qu'ils étaient là pour nous. Et c'est après coup, après avoir grandi, que j'ai senti ça et que j'ai pu ensuite aller en parler avec eux. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas pour tous mes frères et sœurs, mais on sait qu'ils sont là, présents pour nous si on en a besoin.
Eric et Noël Jamais, on peut se dire aussi qu'un deuxième obstacle, c'est que tous nos enfants ne reçoivent pas le même message. Alors, comment on fait?
Ben, la première chose, c'est en fait de les accueillir tels qu'ils sont. Et à chacun, on a rappelé qu'on les aimait d'un amour indéfectible, un amour qui ne change pas, quelle que soit leur adhésion à la foi. Et ça, ils le savent au plus profond d'eux. Et ils nous l'ont répété. Et je pense que ça leur donne une grande liberté. Et ça leur donne la capacité de progresser chacun à leur rythme. On peut parler de notre aîné qui aujourd'hui a 33 ans et qui a commencé par se mettre en couple, acheter une maison, puis après ils ont eu un enfant. Après, ils ont décidé de le baptiser alors qu'ils étaient très loin de l'église. Puis, ils se sont mariés à la mairie. Et là, cet été, ils viennent de se marier à l'église. Et ils s'aperçoivent, effectivement, que ils nous ont vus, ils nous ont entendus faire partie de ces mouvements Priscilla et Aquila qui nous ont renouvelés au niveau de la foi. Et de ce mouvement « Vivre et aimer » qui nous a permis de travailler notre communication dans le couple. Et maintenant, Benoît a décidé avec son épouse de lui aussi travailler son couple à travers Vivre et Aimer, qui est un mouvement catholique qui permettra aussi de grandir dans la foi. Donc, c'est l'idée de leur laisser le temps et de les accueillir tels qu'ils sont.
La mission, nous l'avons vue, donc elle naît et grandit dans la famille. Malgré les obstacles, elle est vitale, le père Martin Brevel nous le disait, et elle rejaillit immanquablement au-delà de la famille, dans le milieu professionnel ou dans les engagements divers. C'est ce que nous allons voir maintenant, donc la mission en dehors de la famille. Elle se déploie dans différents lieux, au travail, dans les engagements bénévoles. Nous allons peut-être recevoir d'abord le témoignage de Marie qui va nous expliquer comment elle témoigne de sa foi dans son travail, Marie.
Donc, moi, je suis prof d'anglais dans un petit collège et ce qui m'attire dans ce collège, c'est la présence de la foi. La possibilité de pouvoir transmettre des valeurs que j'ai moi-même reçues donc au sein de ma famille et de les transmettre à mes élèves, qu'ils soient croyants ou pas, parce qu'on n'a pas que des élèves baptisés qui vont à la messe tous les dimanches, mais c'est aussi de pouvoir transmettre donc par mon comportement, mon exemple, mais aussi par des textes que je peux étudier, des personnalités. Par exemple, on étudie beaucoup Tolkien, qui est un auteur chrétien et que j'apprécie. Et je vois dans mes élèves qu'il y a un éveil pour certains auteurs. Par exemple, Tolkien, ils ont beaucoup aimé le cours. Et même par l'exemple qu'on voit, on voit rejaillir en fait dans la cour de récré des valeurs de nos élèves qu'on a réussi à transmettre.
Éric Jamais, vous êtes directeur d'EHPAD. Est-ce que vivre sa foi au boulot, c'est possible?
Oui, souvent je dis à Noël, quand je pars le matin, pour moi j'ai l'impression de vivre mon travail comme une mission. Une mission auprès de ces personnes âgées que j'accompagne sur la fin de vie. C'est une vraie interrogation pour moi de comment permettre ce passage, ce dernier passage en douceur, ces dernières années en douceur, et comment accompagner les salariés le mieux possible pour que eux aussi accompagner les personnes. Donc pour moi, c'est un travail qui est une vraie mission de vie.
On peut dire aussi que c'est une mission qui se vit à deux, quelque part, mais à distance. Souvent, le soir, Éric arrive en disant « tu peux prier pour ça, etc. » Ou le matin, quand il part, on prie pour la journée qui souvent s'annonce un peu difficile. Ce soutien qu'on peut avoir par la prière, c'est vital.
Cette prière nourrit la mission. À travers les engagements, outre la vie professionnelle, vous avez tous de multiples occasions d'être disciples missionnaires, et notamment dans vos engagements. Quel sens cela prend pour vous, Père Michel?
Moi, je dirais d'abord qu'il faut, c'est un truc énorme que je vais vous dire, il faut abandonner l'idée de porter du fruit. Ah! Oui, parce qu'on est dans une culture aujourd'hui de la réussite. Il faut absolument qu'on vise un résultat. Et ça, c'est vrai dans la logique de l'entreprise. Moi, j'étais longtemps dans l'entreprise. J'étais pas converti à cette époque-là, d'ailleurs. Et je vois que dans la famille, comme dans l'église, c'est pas le résultat, c'est les moyens. Donc, on est dans une obligation de moyens, mais pas dans une obligation de résultat. Ça donne beaucoup de liberté par rapport à ce que l'on doit faire. Parce que le résultat, bien sûr, appartient au Seigneur, et particulièrement pour nos enfants. Prenons tous les moyens, mais après, Seigneur, ça t'appartient. Seigneur, ils sont à toi. Donc ça, c'est vis-à-vis des enfants. Vis-à-vis des engagements, c'est sûr que je pense qu'une famille zélée, comme elle est, ben ça se voit, aujourd'hui ça se voit. Et je pense qu'une famille zélée peut transformer tout un quartier. C'est de cet ordre-là. Est-ce que vous avez entendu parler de la famille Lefèvre? Ça vous dit quelque chose? Oui, vous savez, cette famille qui se jouait, etc. Ils ont été number one à une émission de télévision. Ils sont passés super bien. C'était la famille versaillaise QQ Cato, comme pas mieux, hein. Eh ben, ils ont fait un carton. Parce que des gens comme ça, ça se remarque. Famille Lefèvre, voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, que moi, avec mon épouse, on avait à la fois chacun notre grâce, on avait sans doute notre façon d'évangéliser, on avait notre engagement chacun, séparément, mais heureusement, on a eu assez vite un engagement à faire ensemble, on s'est occupé de divorcer. Ça nous a fait beaucoup de bien à nous, mais aussi ça touchait beaucoup les divorcés, de ce que on était peut-être mariés, mais on était sensibles à ce qu'ils pouvaient vivre. Et puis après, on s'est beaucoup occupé de couples en difficulté. Alors c'était sympa, moi je m'occupais du mari, elle s'occupait de la femme, après ça on se retrouvait à quatre, enfin tout ça. Et ça a fait faire beaucoup de progrès à des couples qui venaient passer un peu de temps avec nous, voilà. Et c'est ce qui m'a donné après l'idée, quand j'étais veuf, de fonder le parcours Toby et Sarah, qui fait ce travail aussi de mettre le Christ au cœur des couples qui passent par des difficultés.
Noël Jamais, dans vos engagements, vivre et aimer, Priscille et Aquila, comment vous vivez la mission?
Bah déjà... Au début, on se posait toujours, enfin, c'est toujours une question qu'on se pose, elle est où ma mission? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là où est-ce que tu m'envoies, Seigneur? Et on a beaucoup reçu, nous, à travers la communion Priscilla Aquila, pour essayer de voir au fond notre couple, qu'est-ce qu'il porte, et là où le Seigneur veut nous appeler. Et on nous a encouragés, en fait, à partir du cri qu'on porte, de qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui fait que le matin, on va se dire, c'est là qu'il faut que j'aille? Et pour nous, ça a été finalement comme ça qu'on a vu ce qu'on devait faire.
Oui, en fait, pour nous, c'est parti d'un drame familial, du décès de mes parents, de leur couple qui les a fait souffrir et qui était aussi à l'origine de leur décès.
Et ça, pour moi, c'était un cri intérieur. Et donc, aujourd'hui, on a appris dans ces deux mouvements, vivre à aimer, comment travailler la communication entre nous, comment nous parler. Ça, c'est notre part humaine. Et aujourd'hui, on apprend dans Priscille et Aquila comment nous laisser renouveler, comment recevoir une vraie Pentecôte sur notre couple, hein, par le Seigneur. Et on a besoin de ça.
Ouais, c'est ce qui nous conduit finalement à prendre du temps, à donner du temps, mais qu'on a reçu pour accompagner des couples à travers Vivre Aimé, et aussi pour contribuer à l'animation de Week-end Cénacle, où on essaye de mettre les couples en situation d'accepter une Pentecôte dans leur couple, que le Seigneur vienne renouveler et guérir ce qui doit guérir dans leur relation de couple.
Nous comprenons à travers votre exemple que, en fait, vous vous êtes servi de cette blessure, la blessure de vos parents, Eric, et ce grand choc, cette blessure est votre aiguillon et votre tremplin pour être missionnaire à votre tour vis-à-vis des couples. Marie, comment vous témoignez de votre foi, cette foi reçue de vos parents? Comment vous en témoignez autour de vous?
Alors, c'est pas tout le temps facile, d'autant plus que je suis à la fac du Mirail, qui a sa réputation. ça a été difficile au début, donc ça fait 3 ans que j'y suis. Et je me suis vraiment posé des questions sur qu'est-ce que je faisais là-bas, comment est-ce que je pouvais témoigner. Donc moi, avec mon parcours scout, je me demandais comment être une sentinelle de l'invisible. Et j'ai pas encore toutes les réponses, mais je cherche. Et je pense que l'un des aspects par lequel je peux témoigner de ma foi, c'est par l'écoute, la bienveillance envers tous ceux qui m'entourent. On rencontre des gens avec des parcours et des histoires qui sont pas faciles au Mirail et dans d'autres aspects de nos vies. Et je pense que la bienveillance avec laquelle on peut accueillir ces histoires et des paroles qu'on peut laisser sans même se rendre compte aux gens, marque beaucoup plus que ce qu'on pense. En tout cas, c'est ce que je pense. Je sais pas, j'ai pas eu de retour, mais je n'attends pas non plus. Mais je pense que ça peut être un bon début.
Là encore, pour cette mission vécue en famille, nourrie en famille, et cette mission dans le monde, il y a encore des obstacles qui se dressent. Alors, comment y remédier? Il y a d'abord le fait que nous ne soyons pas assez nombreux. Vous savez, vous connaissez cette phrase de l'Évangile, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, quelle espérance, Père Michel Martin Prével?
Alors, il y a un piège important aujourd'hui, et c'est même en réalité une peur, c'est que de fait, surtout on voit ça dans des familles, on se recroqueville un peu parce que, évidemment, il faut se protéger du monde. Alors, ça se conçoit, parce qu'au niveau psychologique, il faut écouter ça. Pourtant, ça a toujours été comme ça, depuis des siècles. Les chrétiens ont toujours été un petit nombre. Même si dans des périodes de grande chrétienté, il y avait effectivement la foi beaucoup plus répandue, mais est-ce qu'il y avait vraiment cette intimité avec le Christ vécue par beaucoup de monde? Je ne crois pas. Ça a toujours été une minorité. Et dans toutes les cultures. Donc la question du petit nombre, elle est déjà aussi dans la parole de Dieu. On voit que c'était le petit reste tout le temps en Israël. Pourtant, c'était un peuple qui avait été particulièrement choyé. Mais ce peuple-là, c'était toujours un petit reste, c'était les petits Anaouim, c'était ceux-là qui étaient les pauvres du Seigneur, et c'était ceux-là qui étaient fervents. Il y en a toujours eu peu. Et c'est exactement la même situation aujourd'hui. Alors le petit nombre, ça, le Seigneur, il connaît ça depuis des siècles. Mais il ne cherche pas à sauver le monde, à ce que tout le monde va être converti, tout le monde, ça va être magnifique. Il veut sauver le monde avec quelques-uns. Et ces quelques-uns qui peuvent emmener tous les autres. Le monde sera sauvé par quelques-uns. C'est pour ça que Jésus, qui était loin d'être un naïf, il a choisi qui? 12 pauvres types. Franchement, c'était pas génial le casting. 12 pauvres types. Donc vous êtes les pauvres types que Jésus veut exactement aussi choisir. Voilà. Donc ce petit nombre, c'est parce que tout simplement, et c'est comme ça dans l'histoire des hommes aussi, ce sont les minorités qui ont raison. Et les révolutions sont toujours faites par un petit nombre. Les bolcheviks, c'était quelques-uns, etc. Eh bien, la révolution de l'amour, elle se fera aussi avec un petit nombre. Mais attention, un petit nombre qui sera saint. Alors, ça ne veut pas dire parfait. On n'a pas arrêté de dire que la famille, c'est loin d'être parfait. On est d'accord. Moi, j'ai pas fait une famille parfaite. Je suis pas toujours satisfait de ce que j'ai fait. Ça, peu importe. Et c'est vrai qu'on n'a pas de famille parfaite. mais on cherche des familles saintes, et ça existe. C'est pas la même chose. Et donc cette sainteté, c'est cette sainteté qui rayonne, c'est celle-là. Et cette sainteté, elle nous est donnée par le Seigneur. On ne la choisit pas. Donc, cool. Soyons quand même exigeants, parce que nous sommes dans une immense grotte, très ténébreuse. Mais vous avez remarqué, vous allumez une bougie dans une grotte, et tout change. Voilà. Eh bien, vous êtes une petite bougie, c'est tout. Mais il faut cette petite bougie. Alors, c'est la seule exigence que le Seigneur nous demande, sois saint. Et ça, c'est pour tout le monde. Le pape François dit beaucoup ça, que la sainteté, c'est pour le voisin d'à côté, c'est la sainteté au quotidien, c'est quelque chose de très simple. Et pour la famille, il y a une chose extraordinaire, c'est la sainte famille, on n'en a pas parlé. Voilà la sainte famille, planquée dans un petit trou à Nazareth, etc. Et c'est la sainte famille qui a donné celui qui va sauver le monde. Et puis c'est devenu une multinationale archiconnue qui s'appelle l'Église. Vous voyez comment les petites graines, ça donne de grands arbres. Mais nous serons jamais que des petites graines. Le grand arbre, c'est l'affaire du Seigneur. Voilà. Moi, ça m'a mis dans une très grande paix quand j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années. Parce que moi, j'avais envie de faire, de conquérir le monde, quoi. J'avais envie que tout le monde soit chrétien. Et j'ai compris que tant que je ne serai pas moi, il va manquer quelque chose dans le monde. C'est tout. Alors je continue à travailler à ma sainteté. J'y suis pas encore arrivé, rassurez-vous, mais je me donne encore quelques années avec une espérance. Voilà.
Marie, qu'est-ce que vous avez expérimenté en famille pour ne pas vous décourager dans la mission ? Deuxième obstacle, découragement.
Alors les pèlerinages qu'on a fait en famille, se retrouver en cateau, entre cateaux. Bien sûr, faut pas faire que ça, mais ça donne un bon souffle une fois dans l'année. Un pèlerinage par an, ça aide. Et nous, on a fait une retraite en famille à Cotignac il y a quelques années, et on en est revenu enchanté. Ça nous avait tous portés. Alors même si on ne retient pas tous les topos qu'on a pu avoir, tous les moments spi. On retient quand même tous les bons moments passés en famille et avec les autres familles. Il y a notamment une, pour ceux qui connaissent, une grande piscine. Et on a vécu de très bons moments dans la piscine. Et en fait, ça nous a donné aussi de partager des moments en famille, dans une atmosphère spi, mais sans forcément avoir une prière comme faire les laudes. On a notamment fait du canoë dans les gorges du Verdon. Et en fait, aujourd'hui encore, quand on parle des gorges du Verdon, on revoit tous l'endroit et le moment où on était très heureux d'être ensemble, d'être retrouvés pour une semaine entre nous et d'avoir vécu tant de belles choses.
Donc, vous voulez dire que un des antidotes pour ne pas se décourager, c'est d'avoir des lieux de ressourcement. Voilà, des sessions l'été ou un pèlerinage ou une retraite en famille pour que les familles évangélisent les autres familles. En fait, c'est par capillarité que ça fonctionne. Une dernière astuce, Eric et Noël Jamais, pour ne pas s'arrêter aux obstacles.
Eh bien, c'est d'apprendre à regarder ce qui est bon, ce qui est bien, ce qu'on a fait de bien. Parce que ça, on a souvent tendance à dire, oh, ça j'ai pas fait, etc. Mais prenons le temps aussi de dire, waouh, ça c'était bien quand même, ce qu'on a fait. On a réussi. Merci Seigneur, tu nous as aidés. Et apprendre à regarder au quotidien les belles lumières qui ont été transmises, hein, sans qu'on se rende compte. On a eu, nous, la joie, par exemple, de vivre le mariage religieux de notre fille. C'est un vrai engagement chrétien. Et ça a été, je dirais, une lumière pour la famille, la célébration, l'intensité qu'ils ont mis dans leur engagement. Ça a converti tous ceux qui étaient là. Il y avait parmi eux, il y avait dans l'assemblée, des gens qui étaient loin. En particulier, elle avait une amie musulmane qui était venue spécialement, qui avait fait 300 km pour venir à son mariage. Et on a senti l'impact, en fait, d'un jeune couple comme ça qui s'engage avec joie, avec une telle joie. Ça rayonne, ça transpire et ça marque beaucoup. On a beaucoup d'échos, hein, de la suite de ce mariage. Et ça, c'est une belle joie, une espérance.
Ça, c'est le côté spirituel. Et le côté humain des choses... c'est qu'en fait, l'Église nous donne plein d'occasions de faire la fête. Donc là, c'était une fête de mariage, il y a les fêtes de baptême, il y a la confirmation, il y a les professions de foi. Bon, sans parler des messes du dimanche, mais quand on arrive à associer, comme, ça, comme on l'a vécu là, à la fois une célébration dense, authentique, belle, qui a une belle liturgie, qui touche, qui transforme, et que la suite de ça, c'est une fête où l'esprit d'enfance profane, hein, où on se met tous à danser sur Magic System en mettant les mains en l'air et tout, et que ça danse jusqu'à 6 heures du matin. Mais c'est ça qui nous est donné, c'est-à-dire de renouveler cet esprit de fête à chaque occasion. Là, ils viennent de me souhaiter mes 60 ans de mariage, mes 60 ans, pas sûr de mariage, mes 60 ans, pas encore de mariage. Mais ils m'ont fait une belle fête. Et ils dansaient tous autour de moi. Et ils m'ont tous... Ah ben voilà, donc là, quelque part, ça a renouvelé aussi cette joie et cet esprit d'enfance dans la famille. En associant les deux.
Oui, à propos de la fête, il me revient une idée, quelque chose qui s'est passé justement pendant le confinement. Vous savez qu'on nous a invités à prier en famille, hein, puisqu'il n'y avait plus les messes, tout ça. Et je me rappelle d'un de mes fils qui m'a raconté ça. C'était très chouette, il a pris ses enfants, sa femme, et ils se sont mis à faire comme font les familles juives chez elles. C'était pour le Jeudi Saint. Donc il a organisé chez lui le repas avec les azimes, vous savez, ce pain qu'on appelle le repas de Pâques, Pessah. Là, ils ont fait du pain avant ensemble, dans l'après-midi, un pain qui n'était pas levé. Et puis ils ont cherché des herbes, un bout de salade, etc. Ils ont refait le repas de Pâques, avec quelques petites indications qu'il est allé chercher sur Internet. Et la famille a vécu là un moment extraordinaire, les enfants s'en souviennent encore. Et ça, c'est ce que le pape François nous invite à faire, c'est retrouver la dimension de l'Église domestique. Hein, on n'a pas parlé de ça encore. Alors, c'est bien sûr parce que ça évangélise la famille. Mais une famille qui vit ça, moi je vois tout de suite le fruit, comment cette famille, parce qu'elle a soudé ses liens, eh bien, elle est capable de sourire, elle est capable de manifester une certaine joie, et ça, je vous assure, ça se voit de l'extérieur. Regardez dans les gens autour de vous, comment vous avez repéré des gens qui ne sont pas forcément avec moins de problèmes que les autres, mais visiblement, ils ne vivent pas ça de la même façon, parce qu'ils ont cette force qu'ils tiennent dans leur famille, et ils sont dans l'espérance, ils sont dans la joie. C'est pas pour rien que le pape a appelé son document sur la famille, Amoris Laetitia, la joie de la famille. Parce que la joie, c'est la clé de la mission. Voilà. Est-ce que vous êtes joyeux? Ah, quand même. Et vous souriez pas assez? Non, vous souriez pas assez. Moi non plus. Je suis un Français un peu rationnel et je souris pas assez. Nietzsche, vous savez, c'est un penseur un peu terrible du siècle 1, il disait, je croirai en leur sauveur, quand ils auront des visages de sauvés. Montrez-moi vos visages de sauvés.
Amen, voilà. La transition est toute trouvée. Merci, Père Michel Martin Prével, pour cette transition sur le pape François. Voilà, nous voulions terminer cet échange par trois phrases tirées d'Amoris Laetitia. Si vous voulez retrouver, c'est dans les numéros 200 à 201. Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale, surtout en portant le témoignage joyeux des époux et des familles, église domestique. Il s'agit de faire en sorte que les personnes puissent expérimenter que l'évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière, car dans le Christ, nous sommes libérés du péché, de la tendresse, du vide intérieur, de l'isolement. À la lumière de la parabole du semeur, notre devoir est de coopérer pour les semailles. Le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas oublier non plus que l'Église qui prêche sur la famille est un signe de contradiction. Voilà, il a tout résumé, le pape François, il a tout compris. Merci à tous les quatre.
Vous permettez, le signe de contradiction. On en a peur de ça, et pourtant, je me rappelle une réflexion de Rémi Brague qui dit « Notre seule existence est un défi pour le monde. » Il y a des gens qui disent « Les chrétiens, ça existe encore, mais comment ?» Et le simple fait d'exister, c'est-à-dire d'être nous-mêmes, d'être chrétiens, d'être joyeux, d'être ce que nous sommes, ça, c'est un défi pour le monde. C'est pas chouette, ça. Voilà.
Merci beaucoup, donc Père Michel Martin Prével, Marie Rodier, et Éric et Noël Jamais. Merci de nous avoir éclairés sur la mission dans la famille et par la famille à l'extérieur.